sans savoir pourquoi, je sentis que je devrais téléphoner à Charlotte. Quelque chose m'inquiétait. C'était peut-être lié au fait que je l'avais persuadée de rester dans sa maison hantée plus longtemps qu'elle ne l'osait vraiment, que j'avais défié sa fierté, que je l'avais amenée à lever les yeux et à regarder pour la première fois le gros chien qui rôdait autour des pieds de son père. Son comportement inhabituel, le fait qu'elle ait quitté la séance sans s'expliquer ni me remercier, m'inquiétait. Je regrettais mon geste, à l'instant même où je composais son numéro de portable, mais j'attendis tout de même d'entendre sa boîte vocale avant de raccrocher. Après un déjeuner tardif à Stalmestar-Gordon, je retournais à l'hôpital Karolinska à vélo. Le vent était frais, mais la lumière printanière inondait les rues et les façades. Je me débarrassais de mon inquiétude pour Charlotte en me disant qu'elle avait vécu une expérience si bouleversante qu'elle avait besoin d'être un peu seule. Le feuillage des arbres du cimetière Nora ondoyait dans le vent et la lumière. C'était Kenneth qui devait récupérer Benjamin aujourd'hui. Il avait promis de le ramener de l'école maternelle dans sa voiture de service. Benjamin passerait la nuit chez lui. Je devais travailler tard et Simone allait à l'opéra avec des copines. Je m'étais engagé auprès de la jeune interne, Maya Swartling. Je devais lui accorder un deuxième entretien. Je me rendis compte que cette perspective me réjouissait. J'étais satisfait, car, pour l'essentiel, Charlotte avait confirmé mes théories. Je quittai le hall d'accueil et descendis le couloir en direction de mon bureau. L'entrée de l'hôpital était vide, à l'exception de quelques vieilles femmes qui attendaient le bus. C'était une belle journée, avec un soleil éclatant. Je me dis que je ferais un footing le soir, dès que j'aurais terminé. Quand j'arrivai à mon bureau, Maya Swartling attendait déjà à la porte. Ses lèvres pulpeuses, peintes en rouge, dessinèrent un grand sourire, et la barrette fichée dans ses cheveux couleur de jais étincela lorsqu'elle s'inclina et demanda avec son espièglerie habituelle « J'espère que le docteur ne regrette pas d'avoir accepté l'interview numéro 2. »« Bien sûr que non, » dis-je. Elle se tenait tout près, et je sentis un fourmillement en moi au moment de tourner la clé dans la serrure. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux un sérieux qui me surprit. Elle passa devant moi et entra dans la pièce. J'avais tout à coup conscience de mon propre corps, de mes pieds, de ma bouche. Elle rougit en sortant sa pochette avec papier, stylo et carnet. « Que s'est-il passé depuis la dernière fois ?» demanda-t-elle. Je lui proposai un café depuis la petite cuisine, puis je me mis à lui parler de la séance réussie de la journée. « Je crois que nous avons trouvé le bourreau de Charlotte, » dis-je, « celui qui lui a fait tellement de mal qu'elle tente encore et encore de se suicider. Qui est-ce ? » « Un chien, » dis-je sérieusement. Maya ne rit pas. Elle connaissait mon travail et savait que l'une de mes thèses, la plus audacieuse, la plus frappante aussi, était fondée sur la structure ancienne de la fable. Dépeindre les gens sous forme d'animaux est l'une des plus vieilles façons de parler de choses interdites, trop effrayantes ou trop attirantes. Pour mes patients, c'était une manière d'assimiler l'inconcevable vérité. Celui qui était censé les protéger et les aimer leur faisait au contraire du mal de la pire des façons. Il était très facile pour moi, presque trop, de parler avec Maya Swartling. Elle connaissait le sujet sans être experte. Elle posait des questions pertinentes et savait écouter. « Et Marek Semiovic, comment progresse-t-il » demanda-t-elle en suçotant le bout de son stylo. « Vous connaissez son histoire. Il est venu ici en tant que réfugié lors de la guerre en Bosnie, et à l'époque, on n'a soigné que ses blessures physiques.
Oui.
Il est intéressant pour ma recherche, même si je ne comprends pas encore vraiment de quoi il retourne. Lorsqu'il est en hypnose profonde, il se retrouve toujours dans la même pièce. C'est invariablement le même souvenir. On le force à torturer des gens qu'il connaît, des garçons avec qui il a joué. Mais ensuite, il se passe quelque chose.
Pendant l'hypnose ?
Oui. Il refuse d'aller plus loin. Maya prit des notes, feuilleta son carnet et leva la tête. Je choisis de ne pas parler de Lydia, du fait qu'elle avait glissé de la chaise durant l'hypnose. Au lieu de cela, j'expliquai mon idée selon laquelle la seule limite au libre arbitre sous hypnose vient de ce que nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Le temps passa
et bientôt ce fut le soir. Le couloir devant mon bureau était silencieux et désert. Maya rangea ses affaires dans son cartable, enveloppa son châle autour de son cou et se leva.
« Je n'ai pas vu le temps passer, » dit-elle pour s'excuser.
« Merci d'être venue, » dis-je en lui tendant la main. Elle hésita, puis demanda
« Je peux peut-être vous offrir un verre ce soir ?»
Je réfléchis un instant. Simone et ses copines allaient voir Tosca au Folkoperan, et elles rentreraient tard. Benjamin dormait chez son grand-père. Quant à moi, j'avais pensé travailler toute la soirée. « Ça devrait pouvoir se faire, » dis-je avec la sensation de transgresser les règles.
« Je connais un petit endroit sur Rosglasgatan, » dit Maya. « Ça s'appelle Petersenberger. C'est assez simple, mais super sympa. »
Nous fîmes la route à vélo. Il n'était que 19h30. Le printemps frémissait à travers les champs clairs des oiseaux dans les arbres. Nous attachâmes nos vélos près de la vieille auberge Klaas Po Hernet. Nous passâmes ensemble la porte du restaurant et, en croisant les regards souriants de la propriétaire, je fus pris de doute. Étais-je vraiment à ma place? Que répondrais-je si Simone me téléphonait et voulait savoir ce que je faisais? Un sentiment de malaise m'envahit. Maya était une collègue. Nous ne faisions que poursuivre notre discussion. Et puis Simone était sortie avec ses amis ce soir. Elles étaient sans doute en train de boire du vin dans le restaurant du Folkoperan en ce moment même. Maya semblait pleine d'espoir. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre ce qu'elle faisait ici avec moi. Elle était éclatante de beauté, jeune et extravertie. J'avais probablement 15 ans de plus qu'elle et j'étais marié.
« J'adore leurs brochettes de poulet au cumin, » dit-elle en me devançant jusqu'à une table au fond du restaurant.
Nous nous installâmes et une jeune serveuse arriva aussitôt avec une carafe d'eau. Maya appuya sa tête dans sa main, contempla son verre et dit calmement
« Si on en a marre, on pourra aller chez moi. »
« Vous, tu ne serais pas en train de flirter avec moi, Maya ?» Elle rit et ses fossettes se creusèrent.
« Mon père me dit toujours que je suis née comme ça, une flirteuse incorrigible. »
Je constatai que je ne savais rien d'elle, contrairement à elle qui s'était visiblement plongée dans tout ce que j'avais fait. « Ton père aussi était médecin ?» Elle hocha la tête.
« Le professeur Jan E. Swartling. »
« Le neurochirurgien ?» demandai-je impressionné.
« Comment définir autrement quelqu'un qui furette dans le cerveau des autres ?» dit-elle d'un ton âpre.
C'était la première fois qu'elle se départait de son sourire. Nous mangeâmes. Je me sentais de plus en plus stressé par la situation. Je buvais trop vite et recommandais du vin. Les regards du personnel, qui supposaient naturellement que nous formions un couple, me rendaient nerveux, mal à l'aise. J'étais éméché. Je ne regardais même pas la note avant de signer. Je froissais le reçu et ratai la corbeille à papier près du vestiaire. C'était une douce soirée printanière. Une fois dans la rue, je me dis que j'allais rentrer. Mais Maya désigna une porte et demanda si je voulais monter voir où elle habitait et prendre une tasse de thé.
« Maya, tu es incorrigible. Ton père a tout à fait raison. »
Elle se mit à rire et glissa son bras sous le mien. Nous étions très près l'un de l'autre dans l'ascenseur. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ses lèvres pulpeuses, ses dents blanches comme des perles, son front haut, et ses cheveux noirs brillants. Elle s'en aperçut et me caressa délicatement la joue. Je me penchai en avant et étais sur le point de l'embrasser au moment où l'ascenseur stoppa net.
« Viens, » chuchota-t-elle en déverrouillant la porte.
Son appartement était très petit, mais charmant. Les murs étaient peints d'un bleu méditerranéen très doux. Des rideaux en lin étaient pendus devant la seule fenêtre. Le coin cuisine, avec son carrelage blanc et sa petite gazinière moderne, était très lumineux. Maya s'y rendit et je l'entendis ouvrir une bouteille de vin.
« Je pensais qu'on devait boire un thé, » dis-je quand elle revint avec la bouteille et deux verres dans les mains.
« C'est mieux pour le cœur, » dit-elle.
« Dans ce cas, » répondis-je en prenant un verre et en me renversant du vin sur la main.
Elle essuya ma main avec un torchon, s'installa sur le lit étroit et s'inclina en arrière.
« Tu as un appartement charmant. »«
Ça fait bizarre de t'avoir ici, » sourit-elle. Je t'admire depuis si longtemps et... » Soudain, elle sauta sur ses pieds. « Il faut que je te prenne en photo !» s'écria-t-elle en pouffant. « Le beau docteur dans mon petit chez-moi !» Elle alla chercher son appareil et afficha une mine concentrée. « Prends un air sérieux !» me dit-elle en me regardant par le viseur. Elle me photographia en pouffant, m'incita à poser, plaisanta et dit que j'étais beau, que j'étais exquis, me demanda de plisser les lèvres. « Qu'est-ce que tu es sexy ? » dit-elle en riant. « Je vais faire la couverture de Vogue ? Sauf s'ils me choisissent, » dit-elle en me tendant l'appareil. Je me levai, sentis que je vacillais et la regardai par le viseur. Elle s'était jetée en arrière sur le lit. « C'est toi qui gagnes, » dis-je en prenant une photo. « Mon frère m'appelle toujours la grassouillette, » dit-elle. « Tu trouves que je suis grosse ?»« Tu es incroyablement belle, » chuchotai-je. Et je la vis se redresser et retirer son pull au-dessus de sa tête. Elle portait un soutien-gorge vert clair en soie sur une poitrine généreuse. « Prends-moi en photo maintenant, » chuchota-t-elle en défaisant son soutien-gorge. Elle rougit abondamment et sourit. Je réglai la mise au point et dévorai ses yeux sombres et scintillants. Sa bouche souriante, la jeunesse de ses seins rebondis, leur mamelon rose pâle. Je la photographiai tandis qu'elle posait. Elle me fit signe de m'approcher. « Je vais faire un gros plan, » murmurai-je en me mettant à genoux. Je sentais le désir monter en moi. D'une main, elle souleva un sein lourd. L'appareil flasha. Elle me chuchota d'approcher. J'eus une puissante érection. Mon sexe me faisait mal. Je baissai l'appareil, me penchai en avant et pris l'un de ses seins dans ma bouche. Elle le pressa contre mon visage, je léchai et suçai le téton dur. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Mon Dieu que c'est bon !» Sa peau était brûlante, vaporeuse. Elle déboutonna son jean, le fit glisser en se déhanchant et s'en extirpa. Je me relevai, pensant que je n'avais pas le droit de coucher avec elle, que je ne pouvais pas, mais je pris l'appareil et la photographiai de nouveau. Elle ne portait plus qu'une fine culotte vert clair. « Allez, viens !» chuchota-t-elle. Je la regardai de nouveau par le viseur. Elle me renvoyait un large sourire et écartait les jambes pour moi. Ses poils pubiens noirs se devinaient aux abords de sa culotte. « On peut !» dit-elle. « Je ne peux pas !» répondis-je. « Je crois que si. Maya, tu es dangereuse. Tu es très dangereuse, » dis-je en posant l'appareil photo. « Je sais que je suis une vilaine fille, mais je suis un homme marié, tu comprends ça ?»« Tu ne me trouves pas belle ?»« Tu es merveilleusement belle, Maya. »« Plus belle que ta femme ?»« Arrête. »« Mais est-ce que je t'excite ?» Elle éclata de rire, puis redevint sérieuse. Je hochai la tête, reculai, et la vit sourire d'un air très satisfait. « Je pourrais continuer mes interviews ?»« Absolument, » dis-je en m'avançant vers la porte. Je la vis m'envoyer un baiser de la main. Je lui rendis le geste, quittai l'appartement, me précipitai dans la rue et enfourchai mon vélo. Cette nuit-là, je rêvais que j'observais un relief en pierre représentant trois nymphes. Ma voix me réveilla. J'avais parlé si fort que j'entendis l'écho de ma propre voix dans la chambre obscure et silencieuse. Simone était rentrée pendant que je dormais. Elle remuait dans son sommeil à mes côtés. J'étais en nage sous l'effet de mon rêve et l'alcool coulait encore dans mes veines. Les lumières clignotantes et le grondement d'un véhicule de nettoyage passèrent dans la rue. Il n'y avait pas un bruit dans la maison. Je pris un cachet et m'efforçai de ne plus réfléchir à rien, mais réaliser ce qui s'était passé la veille. J'avais photographié Maya Swartling quasiment nue. J'avais pris des photos de ses seins, de ses jambes, de sa culotte verte printanière. « Mais nous n'avions pas fait l'amour », me répétais-je. Je ne l'avais pas prévu, je ne l'avais pas voulu, j'avais dépassé les bornes, mais je n'avais pas trompé Simone. J'étais maintenant parfaitement éveillé, à en avoir froid dans le dos. Qu'est-ce que j'avais? Comment diable avais-je pu me laisser entraîner à photographier Maya nue? Elle était belle, ensorceleuse. J'avais été flatté par elle. Il m'en fallait donc si peu. Je réalisais avec étonnement que je m'étais découvert une vraie faiblesse, la vanité. Rien en moi ne pouvait affirmer que j'étais amoureux d'elle, mais ma vanité goûtait sa compagnie. Je me retournai dans le lit et tirai la couette sur mon visage. Au bout d'un moment, je me rendormis profondément.